temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité a, au gré du temps, occupé des fonctions importantes dans le secteur des communications de masse, particulièrement en télévision et aussi, plus récemment, dans le secteur radiophonique. Il a assumé plusieurs vice-présidences pour le groupe TVA, dont celle en information et aux affaires publiques et celle de la programmation. On le retrouve aussi directeur des nouvelles télévisées à Radio-Canada, président des productions Pixcom, vice-président chez Transcontinental Media, vice-président pour Accessible Media Incorporé, un organisme multimédia, dis-je bien, sans but lucratif exploitant des services de diffusion pour des personnes ayant des handicaps. Plus récemment, il était président et chef de l'exploitation pour le groupe Musique Greg. Cette feuille de route impressionnante, c'est celle de Philippe Lapointe, qu'on accueille avec grand plaisir. Bonjour à vous.
Bonjour Armand.
C'est vrai que c'est tout un CV, ça. Ça pèse lourd.
Oui, vu comme ça, ça pèse lourd. Je me sens pourtant pas lourd, mais ça pèse. C'est quelques années de travail.
Est-ce que vous aviez un jour imaginé que, en vieillissant, un jour on ferait un bilan aussi prestigieux d'une carrière qui a quand même été marquante?
Oui, puis j'espère qu'elle n'est pas terminée. Moi, je me sens pas comme quelqu'un qui est à la retraite. Je travaille à plein temps. Je suis très occupé. Je suis passionné par le métier que je fais. Je me sens encore comme un gamin. Là, quand je vais travailler le matin, j'ai la même passion qui m'animait à l'époque, m'anime encore. Alors, c'est pour ça que je trouve ça flatteur. Puis c'est parce qu'on se connaît très bien que ça me fait plaisir de venir. Mais je me sens pas rendu à l'heure des bilans. Mais cela dit, ça fait plaisir. Puis je trouve ça intéressant de revenir. Ça me donne l'occasion de réfléchir un peu en même temps.
Vous avez parlé de passion. Vous, comme vous l'avez mentionné aussi, on s'est connus à une certaine époque. Vous avez été même mon patron. Cette passion, elle était perceptible, même si parfois nous n'avions pas nécessairement les mêmes points de vue. Elle était perceptible dans la fonction que vous occupiez parce que vous défendiez beaucoup le produit dont vous étiez responsable.
Ah ben ça prend de la passion pour faire ce métier-là. Tu sais, il y a personne qui travaille, qui choisit le métier ou de journaliste parce que c'est d'abord ce que j'ai fait, puis c'est ma vraie passion, c'est le contenu. Faut faire ça par passion. On fait pas ça par. Si on veut faire de l'argent, on fait autre chose.
Mais c'est pas un milieu facile. Ben c'est un milieu d'artisan,
C'est un milieu extraordinaire. Moi, je me trouve tellement chanceux d'avoir pu évoluer dans ce milieu-là. Et quand j'étais à l'école, au collège, là, au secondaire, là, je me disais un jour, je vais travailler dans les médias. Je pensais jamais que j'occuperais des fonctions. Quelqu'un m'aurait dit un jour, tu vas être directeur de l'information à Radio-Canada. Puis j'aurais dit, ben oui, donc le change de pocheur, là, ça n'arrivera pas. Tu sais, je croyais pas ça. Mais je trouve ça extraordinaire de l'avoir fait. Puis quand je me suis retrouvé à TVA, à travailler avec des gens comme Jacques Moisan, puis Pierre Bruno, puis après ça, quand j'ai arrivé à Radio-Canada, puis je me suis trouvé à travailler avec Bernard de Rome, qui est encore un ami aujourd'hui, travailler avec des gens comme Jean-François Lépine, Raymond Saint-Pierre, Madeleine Poulain, des gens de ce niveau-là, tu sais, je me pinçais, je me disais, c'est quand même extraordinaire de pouvoir vivre ça.
Et qu'est-ce qui vous a amené à cette montée quand même assez fulgurante? Moi, je vous ai connu, vous étiez réalisateur. Et en l'espace de peu de temps, vous avez monté l'escalier de la hiérarchie de direction, si j'ose dire, parce qu'on a reconnu assez rapidement vos qualités professionnelles.
Oui. Je pense qu'ils ont trouvé personne d'autre. Ils ont dit, ben,
ça, c'est de l'humilité.
Peut-être que c'était un test de grandeur. Je suis assez grand. Ils ont dit, on va prendre le plus grand, on va le nommer là. Non, en fait, c'est sûr qu'il y a un facteur chance. Il y a un facteur que, moi, je disais toujours à mes, j'ai dit ça à mes enfants aussi, là, c'est pas d'être le plus brillant, c'est d'être celui qui travaille le plus fort. Et c'est sûr que j'étais fou de ça. Tu sais, j'étais fou de ce métier-là, puis je suis encore fou de ce métier-là. Alors, faut vraiment, la passion, oui, c'est un mot important. Alors, je pense que ça, c'était reconnu. Puis, il y avait eu un changement de propriétaire. À cette époque, en 86, Vidéotron a acheté Télémétropole. André Chagnon, nouveau propriétaire, avait une vision qui était une vision très différente de l'ancienne administration, comme on dit. André, que j'appelle André, mais que je vous voyais, que je vous vois encore, là, André avait fait un discours qui m'a marqué. Je me rappelle très bien quand il a acheté, il avait dit « Je veux faire de Télémétropole une grande entreprise québécoise dont les Québécois vont être fiers et à laquelle ils vont être fiers de s'identifier. Puis je veux que ce soit une entreprise familiale, que les gens regardent en famille. » C'est un positionnement clair parce que c'est un positionnement qui insistait sur la qualité. Puis il disait, entre autres, ça se définit par un service d'information. Donc, il y a eu des investissements dans la salle de nouvelles. Il y a eu une décision d'engager un homme qui s'appelle Guy Covey, qui était mon patron, puis un mentor pour moi, puis quelqu'un d'exceptionnel, encore une fois.
Qui est maintenant éditeur de la presse. Qui
est maintenant le grand patron du groupe Gescope, qui est vraiment un grand journaliste. D'abord, avant d'être un homme d'affaires aussi redoutable, là, c'est d'abord un grand journaliste. Et Guy a été un mentor exceptionnel pour moi. Donc, évidemment, c'est facile quand tu as des patrons. Puis j'ai eu des patrons, la chance d'avoir des patrons exceptionnels en lui. Puis Sylvie Lalande, puis Serge Gouin, des gens qui m'ont marqué ma vie, puis avec qui je suis encore année aujourd'hui. Donc, les autres, je pense qu'ils ont reconnu, ont dit bon, ce petit gars-là, il travaille fort, on va lui donner une chance.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
On vient d'entendre Charles Aznavour. Je me voyais déjà, c'est peut-être la façon de vous rendre hommage. Peut-être vous voyiez-vous sur la marquise quand vous étiez jeune ou pas du tout?
Non, absolument. absolument pas. Moi, j'ai commencé comme journaliste à l'antenne, puis j'étais assez mauvais. Alors, je pense rapidement, ils m'ont promu pour m'enlever des ondes. Mais sauf d'une chanson extraordinaire sur le show business. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, puis c'est parce que j'étais incompris que ça n'a pas fonctionné. Puis, c'est très difficile, le show business. Et être artiste, être une star, c'est très difficile. C'est très cruel, en fait. Et les gens nous oublient rapidement. Moi, je ne parle pas pour moi. Moi, je ne suis pas une vedette,
mais j'ai travaillé avec... C'est ça. Mais oui, comme gestionnaire, vous avez eu aussi à composer avec des gens qui vivent constamment l'incertitude, le doute. C'est pas toujours facile, j'imagine, de gérer des artisans, des artistes.
Bien, les gens qui sont, par définition, les stars... Et puis c'est vrai aux États-Unis, on voit ça, c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde. Les grandes stars, c'est des gens différents. Les gens charismatiques, c'est très injuste. Hein. Il y a des gens qu'on met devant une caméra, puis la lumière vient les chercher, puis ils sont des stars. Pourquoi Sophia Loren est une star, on ne sait pas. Pourquoi Bruce Willis est une star, c'est dur à déterminer. Puis au Québec, ben, on a nos propres vedettes, et c'est pas la beauté nécessairement qui est... C'est un ensemble de facteurs qui sont des impondérables, mais c'est très difficile à porter. Alors, il faut les aimer. Il faut trouver un environnement qui fait que les grands talents... La gestion du talent, c'est ça. C'est trouver l'environnement qui fait que le talent peut s'exprimer. Ça se dirige pas comme c'est pas normal. C'est différent comme
mais ça, vous reconnaissez cela. La plupart des gens qui ont travaillé sous votre direction reconnaissaient, entre guillemets, que vous étiez un bon patron parce que vous étiez à l'écoute.
C'est un beau compliment, mais en fait, il faut, pour diriger des gens qui ont du talent plus que nous, d'abord, il faut avoir la modestie de comprendre qu'ils en savent plus que nous, qu'ils sont meilleurs à ce qu'ils font que nous. Travailler avec Bernard de Rome. Bernard de Rome, là, on dit pas à Bernard de Rome comment lire des nouvelles. C'est un champion du monde. Pierre Bruno, on ne dit pas comment lire des nouvelles. Comme on ne montre pas à des grands artistes comment chanter, on les aide à créer un environnement autour qui fait qu'ils vont pouvoir laisser le talent se manifester. Puis quand ça arrive, c'est magnifique, parce que ça fait des gens qui ont des grandes, grandes, grandes réussites.
Alors, au fond des choses, on amène tout le monde sous le soleil, dirait Jean-Pierre Ferrand.
Oui, ça, c'est bien comme transition.
Quand on veut une femme et qu'on n'en a pas, que le temps passe, qu'on pense à autre chose, mais qu'on ne peut pas penser à quelqu'un d'autre. Qui a pris mon âme en prenant ces choses pour aller où il faut aller? Au fond des choses, partir quelque part pour partir, pas pour fuir, ni changer, pas pour s'en aller, aller quelque part, s'en aller, retrouver l'air et le pollen. Je t'aime. Le soleil emmène au soleil, le matin, au midi, et les enfants jouent avec la vie. Le soleil emmène au soleil, et la vie s'élargit pour autant sur quatre continents. Partir quelque part pour partir, comme on est, comme on glisse, et recommencer à apprendre à vivre et vivre en soi. Continuer et parler beaucoup et se donner tout à fait. Le soleil emmène au soleil, et le jour au midi, et les enfants jouent avec l'hiver. Le soleil emmène au soleil, et la pluie se répand quelque part dans un autre univers. Oh, comme c'est beau.
Cette chanson de Jean-Pierre Ferland nous était proposée par Philippe Lapointe, qui est avec nous. Vous disiez que c'était une belle transition, parce qu'en fait, c'est un peu cela aussi, c'est de permettre à chacun de pouvoir se développer à l'égard du talent qui est le sien, mais sans trop mettre de contraintes, mais en même temps, de favoriser, d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent généralement donner.
Oui, des fois, c'est extraordinaire d'avoir amené des gens à se dépasser. C'est formidable. Mais cette chanson-là, je vous dis un mot sur cette chanson-là, qui a été composée par un musicien qui s'appelle Paul Baillargeon, qui est un de mes très grands amis dans la vie, quelqu'un que j'admire et que j'aime d'amour. Alors, Paul est un grand musicien québécois qui d'ailleurs, un des seuls, sinon le seul Canadien québécois à avoir gagné un Emmy Award et qui a fait la musique, entre autres, de la série Star Trek, de la série télévisée Star Trek, et qui a fait beaucoup de très belles chansons. Puis c'est une de mes chansons préférées. Puis un jour, j'avais pas fait le lien. Un jour, j'ai appris que c'était mon ami qui a fait cette chanson-là. J'étais tellement heureux. Alors, ça m'a fait plaisir de la faire jouer.
Alors, un beau clin d'œil à Paul Baillargeon. Oui. Dites-moi, Philippe Lapointe, il faut rappeler que vous avez été vice-président de l'information et que vous avez créé aussi des choses qui ont transformé profondément notre espace télévisé en information. Je pense, par exemple, à l'émission JE. Ça a été vraiment audacieux à une certaine époque. On pense journalisme d'enquête ou journalisme électronique. Quelle était l'idée de JE au départ?
Ben, en fait, c'était ça. C'était les deux. C'était du journalisme aussi où le journaliste était impliqué dans l'histoire. Il faut se rappeler qu'on avait deux journalistes de très grand talent pour l'animer au départ, qui étaient Jocelyne Cazin et Gaétan Giroir. Mm-hmm. On parle de deux gens là, avec des grands talents, puis une drive, comme on dit, de feu. Alors, c'est de l'enquête. C'est un peu, pour dire une expression anglaise, in your face. Et ça définit, je pense, un nouveau genre. Après ça, Radio-Canada fait La Facture, qui était pas une copie, parce que c'est pas le bon mot, parce que La Facture, c'est une excellente émission, mais qui était une évolution, je dirais, dans le même sens. C'était à la défense du consommateur. Et c'est une émission, c'est du journalisme très engagé dans la défense des gens. Alors, je pense que c'est ça qui a fait le succès, puis ça marche encore.
C'est une émission justicière aussi, parce que moi, je me souviens, à une certaine époque, il y avait des gens qui disaient à des commerçants, par exemple, avec qui ils avaient de la difficulté à transiger. Écoutez, si ça ne fonctionne pas, je vais appeler JE.
Absolument. Puis d'ailleurs, ça marchait parce que souvent, tu sais, je me souviens que Gaétan Giroir avait été renouvelé son permis de conduire, puis les employés du gouvernement disaient « Qu'est-ce qu'on a fait? » Non, je veux seulement renouveler mon permis de conduire.
Prochaine chanson, Philippe, Richard Desjardins, tu m'aimes-tu?
Ben, moi, je suis Montréalais, mais originaire d'Abitibi. Ben, toute ma famille vient d'Abitibi. Ça fait penser à mon père, parce que mon père, évidemment, c'est un Abitibien typique. Je sais pas si c'est typique, parce que c'est un être unique, mais c'est un prototype de l'Abitibi. Alors, quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui pense différemment, quelqu'un qui voit plus grand que nature, qui est plus grand que nature. Et puis, Richard Desjardins, je trouve que ça reflétait ça bien.
Ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort, un envoi du ciel. J'en croyais pas mon corps. T'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. dois être le vrai porteur à ton père. Un daredevil, Nefertiti, des sensations, toute ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi, te dis à ta chum, check le goy des lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq et la femme de ménage est là pour faire rien que compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan qui veut toucher ton pied. Que je l'ai jeté sauvé à vie dans quelque pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs. Pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais-tu me tuer? Il est midi tapant et la femme de ménage, à cogne en hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler l'hôtel.
Richard Desjardins, proposé par Philippe Lapointe. On va rester dans le champ musical parce que jusqu'à maintenant, on voit que c'est quand même, sont des chansons qui vraiment ont du sens. La prochaine qui va terminer ce premier bloc, semble-t-il qu'il y a une histoire associée à cela, c'est Chan Chan. Donc, la musique cubaine du Buena Vista Social Club. Pourquoi donc ce choix?
Ben, la musique, en fait, c'est l'expérience cubaine, l'expérience latino. Mais mes deux enfants ont parlent couramment parfaitement espagnol. Ma belle-fille Elisabeth a vécu plusieurs années en Amérique latine. Mon fils a déjà travaillé dans des brigades communistes à Cuba pour ramasser la cabane à sucre quand il était adolescent.
C'était son opposition à son père.
Je pense qu'il n'avait pas besoin de s'opposer à son père pour avoir le goût de faire ça. Peut-être, mais faut-il lui poser la question à lui. Mais ils ont tous les deux une connaissance de l'Amérique latine qui est beaucoup plus profonde que la mienne. Moi, je parle pas un mot d'espagnol ou très peu. Alors, je les aime beaucoup les deux, puis je trouve que c'est deux personnes exceptionnelles, extraordinaires.
Mais vos fonctions vous amenaient à voyager quand même?
Oui, mais pas. Je suis allé en Amérique latine voir ma fille quand elle habitait là. Ça, c'est le fun de pouvoir aller. Ça me donnait l'occasion d'aller visiter. Mais oui, j'ai voyagé pour le travail, mais jamais dans cette région-là. Non, c'est vraiment la musique. Quand j'entends la musique latino, je pense à mes enfants dans des contextes différents, qui sont les deux personnes les plus importantes dans ma vie, forcément.
Et celle-ci, elle est vraiment caractéristique de ce qu'on peut appeler des classiques cubains.
C'est très beau.
C'est vraiment chanson, très beau.
Aussi, je l'ai choisi parce que ça me fait plaisir d'écouter. C'est tellement une belle chanson.
Mais ça va nous faire aussi plaisir de l'entendre. Merci pour ce choix, puis on se retrouve après la pause.
De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. De alto cero